Et puis en septembre, David Mestri. Bonjour David.
Bonjour Jean-Luc.
David Mestri qui revient de l'atelier de musique ancienne de Gruyère. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire. Jean-Luc Rider.
C'est l'aventure avec vous, David Mestri. On prend le train.
Un train régional qui est sur une voie étroite, une des dernières de Suisse, entre Bulle et Montbovon, pour nous approcher de ce château légendaire de Gruyère.
Ce n'est pas entre Dange et Denezy, c'est entre Bulle et Montbovon que vous nous amenez cette année encore pour cet atelier de musique ancienne, le 11e du nom. À chaque atelier, on fabrique un instrument. Vous avez fait un orchestre à vous tout seul, David, depuis le temps que vous y allez.
C'est plutôt Philippe Motério qui est l'initiateur de cette belle entreprise à qui on doit cet instrumentarium qui existe maintenant et qui est toujours visible, comme on va tout de suite le découvrir, dans une rétrospective presque muséale dans la chapelle qui nous accueille sur le village de Gruyère.
Oui, parce que d'un mot, David, hein, cet atelier de musique ancienne, il y a des concerts, bien sûr, il y a des expositions, et puis les participants mettent la main au rabot, à la scie, à la colle.
C'est ouvert à des stagiaires. C'est effectivement un instrument qui est construit sur toute une semaine avec des volontaires qui viennent prêter main forte au maître luthier. Cette année, ce sera Christian Rau, à nouveau, qui est l'invité pour fabriquer un instrument tout à fait étonnant, une lira d'abraccio. On en parlera toute cette semaine.
Alors, florilège, instrumentarium gruyérien.
La 46 ou 76 ?
Bonjour. Bonjour monsieur, David Mestri. Monsieur, c'est vous qui êtes là pour présenter ce petit musée d'instruments qui se trouve dans le calvaire de Gruyère. Je peux vous demander votre nom ?
Le nom André.
Et vous êtes guide alors pendant...
Non, je suis bénévole, c'est-à-dire ce lieu, le calvaire, est utilisé pendant cette semaine pour ce travail, disons, complémentaire de l'exposition. Alors, ils ont besoin de quelqu'un qui puisse venir ici depuis les 10 heures du matin jusqu'à 18 heures. Mmh. On ne s'intéresse pas à demander le paiement. On est tous des bourgeois, on habite les mêmes locaux, on a les mêmes intérêts. Et vous savez qu'il y a au château un groupe de spécialistes qui pendant une semaine, toutes les années, vient pour fabriquer des instruments anciens, des copies d'instruments anciens. Ici, vous avez sur les photos l'indication, enfin des exemples de comment eux, ils travaillent. Alors, vous pourrez voir les photos et en détail l'équipe au château.
Les instruments qui ont été construits les années précédentes.
Ces photos sont de l'année de 2012. Très bien. Ici, vous avez quelques exemplaires des travaux qui ont été faits au long des années.
Dans cette grande vitrine centrale, oui.
Oui. Ce sont tous des copies d'instruments qu'on a trouvé quelque part dans les musées et dont l'origine est diverse. Par exemple, ce violon est un violon suisse.
Décoré de façon un peu de meuble de chalet, c'est bois très clair.
Violon baroque. Ou par exemple, la luth, il est fait avec des bois spécifiques qui viennent du Brésil, de l'état de Serra. Alors, ici au centre, tout ce sont des reproductions d'instruments qui existent ailleurs. Et en séparé, vous avez un instrument qui est exemplaire unique au monde. Ça, vous n'allez pas trouver nulle part au monde.
Il une forme et des couleurs particulières, ça semble très ancien, il y a du rouge, du noir, très bien décoré.
Il s'appelle, cet exemplaire, c'est pas ancien, c'est ça que... L'instrument est très ancien. Il s'appelle Organistrum, et selon les livres qu'on peut trouver pratiquement dans tous les pays d'Europe, il était utilisé pour accompagner les chanteurs. Et il fut abandonné au moment où il y a eu l'évolution et l'orgue a été inventé. et il s'est perdu. On savait qu'il avait existé jusqu'au XIIe siècle, mais on ne savait plus comment il était.
Il ressemble à une grande vielle à roue, un peu. Il y a aussi une manivelle pour tourner la roue qui frotte les cordes.
Mais écoutez, ça c'est une reproduction en miniature. L'instrument réel avait environ 2 mètres de longueur. Et on a réussi à pouvoir le refaire parce que pendant des études de sculpture à Saint-Jacques-de-Compostelle, on a trouvé cet ensemble sculptural où il était, la musique était exécutée. Et ce fut sur ce modèle et à partir des connaissances des instruments de la même époque que cette équipe s'est décidée à faire la copie
de cet instrument qui est joué par 2 vieillards sur une sculpture de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les 2 vieillards, vous voyez que l'un, on peut l'appeler le musicien. Là, ses touches, ce sont les notes do, ré, mi, fa, sol, etc. Et l'autre, en fait, c'est un fournisseur d'énergie. Alors, comment
qui pompe, qui tourne la manivelle.
Oui. Quand on tourne, vous avez un son. Et le musicien, alors, il utilise...
Il faut vraiment le faire à 2. Alors je vais
c'est
tourner.
C'est plus facile pour moi. Alors, vous avez là. Et ça, le monsieur qui dirige l'équipe que vous allez trouver en haut.
Philippe Moterio, c'est lui. Hein?
Oui, c'est lui. Il m'a expliqué une chose très intéressante. Parce que chaque instrument. Il reproduit la musique sur certains tons, un demi-ton, un tiers de ton, quelque chose comme ça. Mais à cette époque-là, il y avait des tons qui étaient considérés des représentations du diable. Alors cet instrument a été fait de façon à éviter ces sons-là.
De tomber sur les mauvaises notes.
C'était une époque où... Enfin, il existait Dieu, il existait le diable, et rien du tout.
Voilà. Et la musique entre deux qui devait faire attention de quel côté elle penchait.
Santa Maria.
Qu'est-ce qu'on écoute ?
C'est un organistrum et la voix de Francisco Orozco tirée de ce disque Musique au château de Gruyère, qui est une anthologie de ces musiques qui ont résonné au château dans l'atelier de musique ancienne. Et je vous propose de nous y replonger justement, Jean-Luc, à travers un florilège, cette rétrospective de quelques années de musique en mémoire. Souvenez-vous, c'était en 2005 et vous brossiez le décor avec cette voix de jeune homme d'alors.
Vous êtes toujours au cœur de Gruyère, vous êtes cette fois en face de l'hostellerie de Saint-Georges, où l'un des plus grands spécialistes mondiaux de ces instruments médiévaux a organisé une exposition intitulée « Les musiciens de pierre sur les chemins de Saint-Jacques ». Cette sommité, je risque le mot, est Carlos González. Et c'est Carlos González qui fait aujourd'hui visiter cette iconographie médiévale sculptée, puisque c'est la principale base de l'art de la lutherie médiévale. C'est ce qu'on peut en avoir comme source visuelle. Oui, Carlos González fait donc visiter cette iconographie au gré de cette exposition. Il l'a fait visiter à David Mestri.
L'idée de cette exposition n'est pas tant de faire un catalogue d'instruments comme de montrer des musiciens en performance, en train de jouer, des musiciens du Moyen-Âge sculptés, qu'on voit en réalité très petits, toujours très loin, dans les voussures, dans les portails, mais que quand on les a de près, c'est vraiment, ils ont des personnages à part entière. Donc l'exposition raconte un peu aussi l'origine de cette iconographie, d'avoir les anges musiciens ou les 24 vieillards de l'Apocalypse, raconte avec quelques facsimilés des manuscrits médiévaux, comme les Beatus, par exemple, qui sont à l'origine de cette iconographie. Mais le fond de l'exposition, le sujet est ça. C'est les musiciens pris de près, en état de jouer des instruments ou d'accorder, tels comme on les voit dans les églises médiévales, et en particulier liés au chemin de Saint-Jacques, où on trouve il y a une concentration des musiciens dans les portails, dans les voussures et dans les chapiteaux, qui est extraordinaire.
Oui, et puis cette iconographie, ces sculptures sont la base du travail d'un luthier tel que vous, Carlos González, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'autre source pour construire un instrument médiéval que de regarder ce qu'ont fait les sculpteurs et les peintres.
Oui, justement, autant les miniatures et la peinture, ou les ivoires par exemple, que les sculptures monumentales, ce sont nos sources principales. Et d'ailleurs, c'est l'origine de mon intérêt et de mon travail autour de ces sculptures. J'ai commencé à faire ces photographies, à me déplacer aux endroits avec du matériel important, puisque j'aime la photo aussi, pour faire ces photos, parce que je ne trouvais pas dans les livres d'iconographie des photos convaincantes avec des détails que je voulais, de voir comment ces instruments étaient faits. Et j'ai commencé à les faire pour moi, et puis je me suis rendu compte qu'il y en avait tellement, qu'à part mes luths, mes guitares, mes sitoles, que ce sont les instruments que j'ai fabriqués, j'ai photographié tout ce qu'il y avait à niveau musical. Et voilà, et donc une des choses de ce travail, une des productions, c'est une exposition comme celle-là.
Et puis vous parlez du chemin de Saint-Jacques de Compostelle comme un lieu privilégié de représentation de musiciens. Est-ce qu'on a une explication pourquoi ?
Je crois que c'est une. Si, bon, à mon avis, j'ai une idée là-dessus, c'est que c'est une explication liée à la situation qui vivait l'Espagne et la chrétienté à ce moment-là, avec les Arabes en ayant conquis pratiquement toute l'Espagne et menaçant aussi la France et le nord de l'Espagne. Le chemin de Saint-Jacques, donc, ça a été cette creuset des connaissances, interchange de connaissances de tous les pèlerins qui venaient de toute l'Europe et entre autres les musiciens. Et comme en plus s'est greffée cette histoire de miniature de Beatus avec un sujet qui est très fort, qui est l'adoration de 24 vieillards de l'Apocalypse, l'adoration du Christ, qui, ces vieillards, ils avaient tous des instruments de musique. Cet thème est passé à la pierre dans des églises comme Aulnay, Moissac, au Saint-Jacques de Compostelle. Et comme il y avait tellement de gens qui passaient, qui circulaient, cette thématique s'est commencée à s'aimer, à apparaître dans toute l'Europe, hein, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Belgique, en France. Donc, dans les axes principaux, le chemin français, hein, donc, les quatre chemins qui partaient de France ou le chemin espagnol, il y a une concentration inouïe de portails avec des instruments de musique, des vieillards de l'Apocalypse. Et on voit, comme ça dure pendant quelques siècles, cette tradition, on voit l'évolution des instruments qui apparaissent, par exemple, en Espagne, qui vont monter et faire une vie plus au nord. Quand ils arrivent vraiment au nord en Allemagne, peut-être ils ont déjà disparu en Espagne. Enfin, c'est une histoire assez passionnante. «
David Mestri, pour les participants de ces ateliers à Gruyère, de fabriquer de la beauté, et pour nous autres, dans Musique en mémoire, de vivre dans cet univers d'extraordinaire qualité, de grande exigence, de savoir-faire, et puis après, ça s'épanouit et ça respire par les sons.
Exactement, c'était dans les propos de Carlos González ici, luthier. Voici un autre luthier maintenant, toujours tiré de nos archives, c'était l'édition 2008 de l'atelier de musique ancienne et de musique en mémoire.
Qu'est-ce qu'on y fabriquait ?
On y faisait une guitare à la Schubert, c'est de circonstance ces jours où la Schubertiade a résonné à Monté, et c'est Maurice Ottiguer et Philippe Moterio qui étaient les maîtres luthiers. Philippe Moterio, sixième atelier de musique ancienne ici à Gruyère, dans la salle des gardes du château. Et retour un peu aux sources pour vous, puisque vous construisez une guitare qui est l'instrument qui vous a fait devenir luthier, c'est bien ça ?
Oui, exactement. Dans cette sixième édition, on construit un instrument romantique. C'est pour nous une entorse un petit peu à notre programme habituel de musique renaissance, médiévale ou baroque. Là, on est un petit peu à la frontière de la musique ancienne et on construit une guitare de 1820-23 en fait, qui est la guitare que Schubert jouait, la guitare qu'on a retrouvée dans son inventaire après décès. Et on fait une copie exacte d'un modèle assez célèbre à l'époque, la guitare romantique de Stauffer, le grand atelier viennois.
Vous avez déjà eu l'occasion, avant cet atelier, ici vous êtes avec donc des stagiaires qui s'exercent, pour qui c'est nouveau je pense de faire de la lutherie, vous avez déjà fait ce modèle de guitare-là ou c'est nouveau ?
Alors, ce modèle particulier est nouveau au point que pour le stage, j'ai dû construire le moule intégral d'après le plan. Alors je vous montre, là c'est un moule très particulier.
Alors c'est la première étape, toujours fabriquer un moule qui en lutherie, donc une grande pièce de bois qui a la forme plus ou moins de l'instrument du tour des éclisses.
Le plus exactement possible, pas plus ou moins, le plus exactement possible.
Voilà, mais donc le bord évidemment est coupé.
On a découpé la forme extérieure de l'instrument de façon précise. Et les éclisses, donc les côtés verticaux de la caisse de la guitare vont s'appuyer contre cette courbure du moule intérieur.
Il y a aussi donc des parties intérieures alors pour ce moule là qui sont appuyées aussi.
Oui, alors on a le moule d'une pièce qui fait tout le pourtour de la guitare, donc d'où ce terme d'un moule extérieur, avec des contre-pièces qui plaquent les éclisses contre le moule.
Et ça, Philippe Moté, c'est un travail de dessinateur pour fabriquer ce moule. On suit donc un modèle historique ici très précis.
Mais le vrai travail de dessinateur, il a déjà été fait par un luthier ou quelqu'un qui travaille dans un musée à Édimbourg, puisqu'on a pris le plan d'une guitare authentique, le modèle Leniani de Stauffer, un instrument assez moderne pour l'époque, dessiné par un guitariste qui était l'accompagnateur de Paganini, qui a voulu une guitare assez aisée à jouer dans l'aigu et qui a dessiné une guitare avec une touche surélevée. Enfin, c'est un modèle qui a eu un grand succès à l'époque.
Et c'est qui était celui utilisé aussi par Franz Schubert alors ?
Oui, exactement.
Qui jouait de la guitare comme Paganini d'ailleurs.
Voilà.
On oublie parfois que c'est un compositeur, pianiste et violoniste. Oui. Ça avait aussi touché.
Donc on a le plan de l'instrument et c'est d'après ce dessin qui est très exact que j'ai découpé le moule.
Et qui est fabriqué dans un bois, assemblage.
C'est un contreplaqué standard qu'on achète au Jumbo.
Et ce moule, il peut durer 20, 30, 40 ans, 50 ans, si on le soigne un tout petit peu. Et on peut faire des centaines de guitares avec le même moule. Théoriquement, on pourrait.
L'instrument qu'on copie, sorti de l'atelier de Stauffer, c'est le numéro 1496.
Donc il a utilisé 1500 fois déjà un moule semblable à celui-ci, voilà, sauf que c'était évidemment pas du contreplaqué. Je pense.
Si on avait retrouvé son moule, ça nous aurait épargné tout ce travail.
Ça veut dire que vous êtes maintenant ouvert à faire plein d'autres instruments. Ce stage est, est le début d'une grande carrière.
On peut maintenant lancer une chaîne de fabrication à plein temps.
La guitare de Schubert, rappelez-moi à Gruyère, elle date de quelle année ?
2008, c'était la sixième édition.
Quel autre millésime vous avez à nous proposer maintenant, David ?
2010. Philippe Motério, oui. Sur la table devant nous, donc dans cet atelier, déjà au troisième jour de la construction de cet alto, on voit un instrument complet, justement un modèle de ce que vous allez fabriquer ici.
Bon, ça, c'est le modèle que Andreas Korczak, qui dirige l'atelier cette année, a amené. Donc, il a construit lui-même en 2 semaines, chez lui, le ténor de violon qu'on va construire cette année, qui est donc un violon un peu plus grand qu'un alto. De la Alemannische Schule, c'est-à-dire avec un décor très particulier et aussi une forme très originale. C'est un instrument qui est copié d'après un modèle historique qui est au musée à Genève.
De cette taille-là, il est aussi celui de Genève.
Oui, c'est un ténor de violon. Donc pour la Alemannische Schule, c'est-à-dire ces violons du nord des Alpes qui sont fabriqués dès 1650, il existe une Bible. C'est le livre de Olga Hadelmann. C'est une luthière chercheuse qui a rassemblé des documents sur les instruments de musique. De façon scientifique, oui, et qui était conservatrice au musée à Berlin, et qui la première s'est intéressée à ces instruments, qui les a recensés. Donc il en existe beaucoup en Suisse, plus d'une dizaine, tout autant en Allemagne. C'est une école de lutherie qui a fleuri au XVIIe, donc très tôt.
Avec une carte là sous les yeux, voilà, effectivement, autour de Bâle, Freiburg, Ambriscau, Zurich.
Disons, partant de Berne jusqu'à la hauteur de Freiburg und Breisgau.
Donc c'est presque encore les Alpes, mais déjà la forêt noire, cette région-là. Voilà.
Et c'est ce qu'on appelle la Alemannische Schule, donc l'école alémanique de construction de violons, qui a des particularités internes surtout, c'est-à-dire que c'est des violons qui ont une épine centrale conservée dans le bois de la table et du fond, qui tiennent lieu de barres. On ne collait pas une barre après avoir creusé la voûte, on la gardait en quelque sorte en creusant de chaque côté, de chaque moitié de la voûte. C'est un peu compliqué. Et donc c'est des violons qui n'ont pas d'âme, au sens où il n'y a pas
de barres qui
relient la table et le fond. Donc ça, c'est, je dirais, la grande différence avec la tradition italienne. Et puis là, le modèle qu'on copie est un anonyme, mais le fabricant le plus célèbre, le plus prolifique en Suisse, s'appelait Hans Krochdaler, et il travaillait à Oberbalm, tout près de Berne. Voilà.
Donc au XVIIe siècle, c'était des violons réputés qui ont... S'il y a tout un ouvrage donc, de Olga Adelman qui est consacré à cette école, vous pensez que c'est une lutherie de qualité ?
C'est certainement une lutherie de qualité, une lutherie aussi très authentique, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché le raffinement pour le raffinement, sinon dans un certain type de décor avec des couleurs qui sont naturelles, mais un décor en feuillage et en fleurs, un petit peu comme on le faisait sur les meubles à la même époque, tout à fait. Mais sinon, ce n'est pas des instruments qui cherchaient le raffinement ultime des violons comme on l'a fait à Crémone. C'est des instruments qu'on jouait en consort. Donc deux ténors, deux violons et peut-être une contrebasse. Chacun joue sa partie sur le principe du consort de viol et on ne joue pas un répertoire de soliste là-dessus. On voit donc bien un manche extrêmement court sur l'instrument où on joue sans démancher. Et c'est pas des instruments très très complexes de ce point de vue-là. Ceci dit, c'est quand même de vrais violons.
Que de souvenirs pour nous et toujours de nouvelles choses à apprendre dans Musique en mémoire, David Mestri. Vous qui assistez à plusieurs de ces ateliers année après année, vous reconnaissez des gens qui y participent et qui viennent chaque année refaire un nouvel instrument ?
Oui, et je me souviens de cet ensemble qu'on entend ici, ensemble Fluidi Montes, alémanique, autour du violoniste Christophe Riedo, qui jouait justement de ces instruments tels qu'ils ont été construits sur place à Gruyère au château.
Un nouveau coup d'œil dans le rétro, quelle année cette fois-ci ?
C'était l'année dernière, 2012, avec la belle voix de David Van Edwards, qui construisait une petite viole.
Six strings, yes. So it will be a little viol.
Ce sera une petite viole à six cordes. Les six cordes fonctionneront très bien, mais c'est une toute petite viole.
It's a very small viol, so.
C'est plutôt un instrument de consort, ou bien est-ce qu'il y a de la littérature pour solistique, pour des pièces ?
No, there's very few pieces written for the treble viol. This is really an instrument for consort playing.
Non, il y a très peu de pièces écrites pour le dessus de viol. C'est vraiment un instrument pour jouer dans le consort, où il joue un rôle égal aux autres trois viols, mais il fait partie de l'ensemble. Quand vous voyez des tableaux, vous voyez souvent le dessus de viol joué par un enfant dans la famille, parce qu'il est plus petit, mais il a une partie musicale équivalente à jouer. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas jouer le dessus de viol parce que c'est très exposé, c'est la voix supérieure, il tend à grincer un peu. Il ne sonne pas aussi agréablement que la basse de viol, et donc les professionnels tendent à l'éviter.
C'est les mêmes musiciens qui jouent la basse de viol qui jouent ces instruments.
Well, yes, theoretically, but in fact, in practice, people specialize.
Oui, théoriquement, mais dans la pratique, les gens se spécialisent, car c'est une toute autre forme et une autre position. Et la tendance dans le consort, c'est qu'une seule personne joue le dessus de viol et une autre joue à la basse.
And another will play the bass.
Est-ce que c'est un instrument qui est joué dans des orchestres au milieu du XVIIe siècle anglais ?
Non, je ne pense pas qu'on puisse déjà parler d'orchestre.
C'est des ensembles de violons à l'époque de la Restauration, mais avant, il y a...
Oui, c'est vrai, mais les viols ne faisaient pas partie de ces orchestres. C'était nouveau. Des orchestres de 24 violons, comme Louis XIV, ça a été apporté en Angleterre ensuite. Les 24 violons, je pense qu'il en avait 12. Ils n'étaient pas si riches. Et c'était largement détesté par certaines personnes vieux jeu en Angleterre quand ils sont arrivés, parce que le violon était tenu pour être plutôt criard, et bruyant, et grossier. Les gens civilisés jouaient de la viole à la maison, dans le calme. Elle a une sorte de qualité non démonstrative. Dans la musique de consort, ce n'est pas dramatique.
Les
parties sont égales, on s'intéresse à la façon dont elles se tissent les unes aux autres et il n'y a pas vraiment de sens du drame, comme c'est le cas avec le violon et la musique d'orchestre. Et donc quelqu'un comme Purcell, écrivant longtemps après la Restauration, était clairement démodé quand il appréciait la viole et écrivait de la bonne musique pour consort. En Angleterre, c'était vraiment la fin de la viole. C'est-à-dire qu'un des fameux derniers violistes a été l'Allemand Abel, qui était un ami de Gainsborough. Il jouait de la basse de viol. Il y avait une différence de classe aussi, en général. La viole était jouée par les classes supérieures dans leur maison de campagne et par les enfants, et c'était des professionnels qui jouaient le violon.
C'était surtout de la musique domestique ?
Yes. You can think of it really as entirely domestic, because the pleasure of listening to consort music is actually not.
Oui, on peut la considérer comme entièrement domestique. Le plaisir d'écouter de la musique en consort, en fait, n'est pas si évident parce que ça ne vient pas vers vous. Le principal intérêt est la conduite des voix. Et le meilleur endroit pour l'entendre est d'en faire partie. Mon ex-femme jouait en consort et j'en profitais en m'asseyant au milieu, en écoutant. Mais en tant que concert, c'est pas si génial parce que ça n'est pas vers vous comme un bloc de son. Vous n'entendez pas les voix séparées de la même manière. C'est une meilleure expérience comme musique domestique. Et même la façon dont les instruments sont rangés en cercle en se faisant face n'incite pas à une exécution publique. Donc des consorts comme Fred Work, etc., qui font l'expérience de s'ouvrir en demi-cercle, mais ça devient alors difficile pour eux de s'entendre les uns les autres. Et ils doivent être vraiment bons, ce qu'ils sont. Mais c'est un concept différent. Je pense que ce n'est pas tout à fait adapté à un concert public.
Alors Christian Rowe, les auditeurs qui ont la meilleure mémoire se souviendront que vous avez fait construire un organistrum ici à Gruyère il y a 3 ans maintenant, dans le cadre de cet atelier de musique ancienne. Et là, depuis, on vous a commandé un violoncelle. C'est un instrument que vous faites habituellement ?
Oui, je construis tous les instruments à cordes frottées, des périodes dites anciennes, c'est-à-dire baroque, renaissance et médiévale, effectivement.
Il y a quand même un grand écart entre le Moyen-Âge et l'époque de Jean-Sébastien Bach, au niveau de la lutherie, ou bien ça évolue très doucement.
Il y a toute une série d'évolutions structurelles des instruments de musique, notamment, enfin, moi je m'intéresse plus aux cordes frottées, donc effectivement, entre la structure de la vielle médiévale et la structure du violoncelle de Bach, il y a quand même des changements très importants dans l'architecture, le choix des bois, le type de sonorité recherchée, le type de musique pratiquée, ce qui fait qu'effectivement, oui, il se passe beaucoup de choses.
Et même entre l'époque du modèle de ce violoncelle à 5 cordes que vous avez fait, qui est à la fin de la Renaissance, c'est un instrument qui a pu quand même être utilisé tel quel par Jean-Sébastien Bach, ou il aurait été aménagé entre deux ravalées au cours du XVIIe ?
Je pense que cet instrument et la structure de cet instrument tel qu'il a été construit, il y a un intermédiaire entre l'instrument baroque tel que Bach a pu le connaître et l'instrument Renaissance tel qu'il existait déjà depuis quelques décennies et même depuis quelques siècles, puisque en fait l'instrument Renaissance, en gros, la structure de l'instrument Renaissance est en fait un prolongement raffiné des techniques utilisées plutôt vraiment au Moyen-Âge.
Et puis, l'instrument a disparu. Ensuite, la 5e corde, elle s'est évanouie dans le temps, elle est restée sur le violone. Quelle est l'histoire du violoncelle à 5 cordes? C'est pas un mouton à 5 pattes qui disparaît par sélection naturelle?
C'est-à-dire que la standardisation des instruments tels qu'on la connaît aujourd'hui s'impose lentement, et plus particulièrement encore dans l'histoire des basses, où on trouve des basses de 4 à 6 cordes, et souvent une confusion entre la famille des viols et des violons, à travers les accords en quarte, en quinte, pour les viols quarte tierce même. Donc il y a tout un... On va dire que les basses mettent plus longtemps à se figer que le violon lui-même. Maintenant, l'histoire de cette cinquième corde, on peut l'avoir par différents aspects. Dans le cadre de ce flou, j'allais dire artistique, qu'ont pu avoir les instruments en fonction des... je suis un peu essoufflé parce qu'on monte la côte en même temps.
Ça grimpe ici à Gruyère.
J'arrive juste. Donc on peut le voir comme dans le cadre de cette relative imprécision du temps que mettent les instruments à se mettre en place. Et on peut le voir aussi à partir d'un instrument abouti tel que le violoncelle baroque, l'ajout d'une cinquième corde venait servir ou pouvait servir des exigences musicales de phrasé que le violoncelle à quatre cordes ne permettait pas. Donc on a un petit peu les deux approches par les deux bouts du fil de l'histoire.
Jean-Sébastien Bach.
La fameuse sixième suite pour violoncelle à cinq cordes, un instrument qui avait été construit, joué ici par Ager Anana. C'était lors d'un concert de l'édition 2012, la dixième de l'atelier de musique ancienne, construit par Christian Rau, qu'on a entendu et qu'on retrouvera pratiquement toute cette semaine, puisque c'est lui qui est le maître du stage qui fabrique cette année une lira d'abraccio. Alors après le florilège et la rétrospective, retour à l'organistrum qu'on a aussi déjà entendu, qui avait été construit sous la direction de Christian Rau. Ici, c'est le maître des lieu Philippe Moterio qui nous le présente.
Il faut d'abord qu'on essaye que avec la basse. Voilà. Voilà. Donc c'est une octave et une quinte par-dessus. Et puis ce petit accord minimaliste, cet organum, on peut le déplacer à la basse ou bien toujours avec l'accessoire. Et c'est un instrument qui servait à l'accompagnement avant même la naissance de l'orgue. Et par-dessus, on chante. Je ne peux pas le faire, surtout pas à la radio, mais c'est ça. Oui, vous avez une petite réplique de l'original. On voit bien qu'il le pratiquait à deux. Il y a un peu la collection complète hein, de tout ce qu'on a.
Et la lira d'abraccio qui n'est pas encore finie.
C'est le troisième jour et la couronne d'éclisse vient d'être détourée. Les voûtes sont quasiment finies tant pour le fond que pour le dessus et on a déjà taillé les chevilles. Donc ça a bien avancé. Avec Christian Rau, qui est le même luthier qui était venu pour la construction de l'organistre.
Le violoncello piccolo qu'il a fait en dehors du stage. Mais...
Exactement. Ça, c'est l'instrument avec la tête de Charles Ier, qui a été sculpté l'année passée.
Qui n'est pas cordé, donc il est utilisé tout de même déjà ?
Il est encore en vernissage, parce que j'ai laissé reposer l'instrument un peu longtemps, avant de le reprendre il y a trois semaines. Voilà. Il est quasiment fini. Avec un beau vernis à l'huile. En fait, c'est de la résine de sapin que je récolte ici sur les sapins, quoi, en gruyère, et je cuis avec l'huile de lin.
Il n'y a pas de couleur. En fait, la couleur est donnée par la cuisson, comme pour le vin cuit. Le premier instrument qu'on a construit...
Ça remonte à 2003.
Un luth Renaissance, déjà avec David Van Edwards. Un luth en une caisse en bois de violette.
Qui est un luth dont on a à peu près de la même époque que la lyre qui est faite cette année. On retombe dans ce... cette grande renaissance.
C'est le luth à 7 cœurs qui est vraiment l'instrument qui va rester dans cette forme, dans cette évolution assez longtemps, l'instrument de la musique de la Renaissance. Oui. La musique de John Dowland.
Et en Italie, on touchait ces mêmes instruments. Leonardo, on sait qu'il était musicien, il aurait pu jouer d'un luth comme celui-ci.
On ne peut pas l'affirmer, mais enfin... C'est vraiment une époque où le luth 6 cœurs rayonne dans l'Italie. On sait qu'il s'en produisait énormément parce qu'il y a des inventaires après décès de luthiers, de familles de luthiers à Venise, où après la mort du maître, on compte jusqu'à 1200 instruments en stock. Dans le grand atelier, ça veut dire que c'est un instrument qui était très populaire. Ça me paraît presque inimaginable que Léonard n'ait pas entendu et pourquoi pas joué du luth. Ce qu'on sait, c'est qu'il jouait de la lira d'abbraccio, justement, lui-même. Et c'est un instrument qui servait souvent à l'accompagnement de la poésie. Donc on peut imaginer, rêver à ces soirées entre intellectuels de la Renaissance, jusqu'au moment où François Ier l'invite en France. Il a dû vraiment voir les plus grands musiciens de son temps en Italie. Et au Clos Lucet, en France, il a un jeune musicien italien qui s'est déplacé en même temps que lui, Alberto da Ripa, qui est un des luthistes les plus connus de ce temps, qui va franciser son nom, Albert de Ripa, et qui importe un peu le répertoire du luth et de la guitare Renaissance, les cordes pincées, donc de la même époque, en France. Et ça va avoir beaucoup de succès.
Donc on récitait la poésie et on s'accompagnait avec cet instrument qui est un peu l'ancêtre du violon, donc plutôt qu'avec des instruments à cordes pincées.
L'un n'exclut pas l'autre, mais l'ensemble qu'on entendra samedi, par exemple, l'ensemble Il Ballo, ont les instruments principaux, c'est le luth et la lyre. Ça fait plaisir de voir tous ces instruments.
Oui, c'est un petit musée des instruments.
Il est temporaire, tout. Car la guitare, on ne l'a pas revue depuis qu'elle a été construite, elle a été constamment jouée.
Oui.
Elle repart tout de suite après la semaine, là. La harpe aussi. Mm-hmm. C'est un instrument qui a été bien joué. Le ténor Geige, donc le grand alto à la manière suisse, allemandische Schule, a été joué par un ensemble de musiciens balois depuis qu'il a été construit. Le violon baroque dans le style de Maggini, donc de l'école de Brescia, c'est aussi un instrument qu'on revoit une semaine en août, mais sinon il est tout le temps sur la route, ce qui est le but de ces ateliers.
Très bien. Et puis alors l'organistrum est accordé juste pour les visiteurs de Gruyère, ou bien est-ce qu'il va être joué par... Pas de concerts médiévaux en perspective.
Je ne sais pas, puisque ce n'est pas moi qui m'en occupe, si l'instrument est réservé pour l'année à venir. Mais on met tous ces instruments, y compris l'organistrum, à disposition de qui a envie de s'essayer à la viole de gambe ou au luth ou à la harpe Renaissance. Voilà.
La lira d'abbraccio, alors je vais monter au château, à la salle des gardes, pour aller voir l'état de la fabrication. Elle aura vraiment... une tête pareille à celle de cette superbe affiche du 11e atelier, Philippe Motterio, avec une sorte de personnage, une sorte de Bouddha à la tête pointue ici.
C'est une copie assez exacte d'un instrument original, et c'est un travail de Christian Rau. Un travail nettement plus compliqué que ce qu'on peut faire sur une semaine avec des stagiaires inexpérimentés. Donc on aura la version simple, mais il y a quand même déjà pas mal de travail de sculpture sur la couronne d'éclisse, mais aussi raffinée et splendide comme sculpture. Quand vous verrez le corps en entier qui est sculpté avec un corps de femme, c'est assez impressionnant.
Et donc par exemple la sculpture d'une tête telle que celle qui est sur cette affiche, elle est plus compliquée à faire qu'une volute de violon traditionnelle ou actuelle?
En longueur de travail, en quantité de travail, non, c'est un petit peu équivalent, c'est juste un savoir-faire différent. Ces sculptures, là, ont la particularité d'être suivies à l'intérieur. Le relief est convexe et concave, intérieur et extérieur, pour qu'il n'y ait pas des surépaisseurs. On ne peut pas avoir à certains endroits 8 mm et puis à d'autres 2 mm. Donc partout, les parois ont une même épaisseur, particulièrement pour le fond, ce qui fait que toute la sculpture externe, à l'intérieur, on la reproduit en quelque sorte pour que l'épaisseur soit de 4,5 mm à peu près partout.
Thank you.
Quel plaisir de partager avec vous, David Mestri, quelques moments privilégiés de ce 11e atelier de musique ancienne, tel qu'il a eu lieu à Gruyère du 18 au 25 août passé. Demain, on y retourne.
On y retourne avec Philippe Moterio, avec Christian Rau et avec Frédéric Martin.
Et puis avec Didier Rossa pour la réalisation, Isabelle Watson pour l'assistance de production, musique en mémoire, proposition de Jean-Luc Rider. Vous écoutez Espace 2, il est 11h.